Bonjour, vous écoutez l'épisode 46 du podcast Les Petits Plus Zen. Nous allons parler aujourd'hui des fonctions exécutives. Je m'appelle Séverine Feiss, je suis accompagnante à la parentalité après avoir été pendant 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Et maintenant, j'ai à cœur de vous accompagner sur votre chemin de parent pour accueillir les émotions et les besoins des enfants et les vôtres, travailler autour de l'arc-en-ciel des besoins, de la cheminée des émotions et installer des tequils en famille, des temps de qualité qui nourrissent les besoins et apaisent les émotions. Vous pouvez travailler avec moi en individuel, en collectif, et puis sur ce podcast, je vous donne toutes les expériences vécues en classe et en famille pour mettre des petits outils, des petits tips et des astuces dans votre vie quotidienne. La notion des fonctions exécutives, elle est peut-être très nouvelle pour vous, c'est peut-être la première fois que vous entendez ce mot, donc je vais vous faire l'essentiel de ce que j'ai appris sur les fonctions exécutives, notamment à travers les deux ouvrages de Céline Alvarez, dont je vous parle très souvent. Donc son livre s'appelle « Les lois naturelles de l'enfant » et les ouvrages aussi de Catherine Guéguin, qui parle beaucoup des neurosciences cognitives et affectives. Donc l'idée de fonction exécutive, c'est toutes les compétences qui permettent à l'enfant d'être autonome, d'atteindre ses objectifs de manière organisée, contrôlée et planifiée. Donc c'est une sorte d'intelligence globale qui permet d'agir sur le monde. Donc ce sont des compétences qui sont transversales, ce sont des compétences qui ne sont pas liées à une matière scolaire précise. Donc ce n'est pas lié ni aux mathématiques, ni à l'art plastique, ni à la motricité. On va retrouver ces fonctions exécutives dans tous les domaines de vie, en classe, à la maison, et vous allez voir que c'est aussi dans la vie pratique, fonctionnelle. Donc ces trois fonctions exécutives principales, la première c'est autour de la mémoire de travail, la deuxième c'est autour du contrôle inhibiteur, et la troisième c'est autour de la flexibilité cognitive. Donc la première, autour de la mémoire de travail, ça va être ce que l'enfant va garder comme information, comme consigne de la tâche qui lui est demandée ou du projet qui s'est lui-même fixé. Est-ce qu'il a bien défini le but ou entendu le but? Est-ce qu'il sait à quel résultat il doit arriver? Quelles sont les marques de réussite? Quelles sont les possibilités de traiter les informations liées à la consigne, liées à l'objectif, liées au résultat, et par rapport à sa réflexion, comment il va mettre en place l'organisation de ses étapes pour être dans une direction cohérente vers l'exécution de toutes les consignes. Donc, suivant l'âge de l'enfant, suivant l'âge de l'élève, cette mémoire de travail, elle va être intense ou plus facile. Elle va concerner un objectif très précis, par exemple la rédaction d'un texte, ou alors elle va concerner le fait de se remplir un verre d'eau. Mais cette mémoire de travail, ça permet de savoir quand est-ce qu'on a atteint l'objectif fixé, qu'il ait été fixé par nous-mêmes, donc un projet intérieur, ou qu'il ait été fixé par un adulte de la crèche ou de l'école. La deuxième fonction exécutive travaille autour de la notion de contrôle inhibiteur. Vous sentez hein, venir le truc un peu serré, contrôle inhibiteur, c'est lié à la concentration de l'enfant, à sa capacité de résister aux distractions autour de lui, sa capacité à prioriser ses tâches et à réguler les émotions ressenties au cours de l'activité, au cours de la tâche, au cours du travail. Donc derrière cette notion de contrôle inhibiteur, il y a à la fois la notion de persévérance. Pour aller au bout de son projet, pour aller au bout de l'exercice, il va falloir fermer un peu les écoutilles à tout ce qui va se passer autour de lui. Il y a aussi la notion de patience qui vient dans cette fonction-là, à savoir que même si les distractions s'accumulent autour de lui, le résultat reste possible pour autant qu'on fasse vraiment barrage à ce qui se passe autour de lui. Donc suivant l'âge de l'enfant, vous voyez aussi que quand il est en train de lacer ses chaussures et qu'il y a un chien qui passe, son frère qui lui parle ou maman qui lui pose une question, au niveau du contrôle inhibiteur, il va avoir du mal à se concentrer s'il y a beaucoup d'éléments perturbateurs autour de lui. Pour un enfant plus grand, un enfant qui est en pleine division, si la cloche de la récréation sonne alors qu'il est en pleine division, vous sentez bien que là, le contrôle inhibiteur de l'attention est en train de s'évaporer parce qu'il y a eu des éléments déclencheurs extérieurs pour s'acheminer des émotions. Et la troisième fonction exécutive, elle est autour de la flexibilité cognitive. Donc cette notion-là parle de détecter sur son exercice, sur son activité, toutes les petites erreurs ou les petits ajustements à faire, les corrections à apporter, alors de manière classique ou de manière créative, pour atteindre le but malgré les couacs, malgré les petites difficultés inhérentes au processus d'apprentissage qu'on a vu dans l'épisode 43. Donc il y a la notion de cause et de conséquence qui vient dans cette fonction exécutive parce qu'il va s'adapter à l'extérieur de la tâche, mais aussi à l'intérieur de la tâche. Sa stratégie, ça va être cette fois-ci de persévérer dans son essai, de rectifier un petit peu sa première hypothèse comme un scientifique, de voir si la deuxième hypothèse est plus pertinente, de voir si avec un pinceau plus fin, il arrive à mieux faire le travail graphique, pour voir si avec un puzzle différent, il arrive à remplir sa fiche de compétences en autonomie. Donc là, ce sont les manières de voir son travail au fur et à mesure du temps qui jouent. Et cette fois-ci, par rapport au contrôle inhibiteur, on est plus dans une souplesse par rapport à un contrôle intellectuel. Ce qui fait que ces trois fonctions exécutives sont quasiment dans tous les projets scolaires, sont quasiment dans tous les projets intérieurs de l'enfant, mais à des degrés, à des dosages un peu différents. Si on associe la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur et la flexibilité cognitive, dans chaque atelier que l'enfant va faire en classe ou à la maison, il va pouvoir traverser toutes ces compétences qui sont justement liées à la vie de collectivité, à la vie personnelle et au fait de grandir pour acquérir ces compétences tout au long de sa vie. Dans le dispositif des moins de 3 ans que j'avais de 2015 à 2020, c'était bien entendu plus facile à installer ce travail autour des fonctions exécutives parce qu'à 2 ans, il n'avait pas encore d'habitude de travail, il n'avait pas encore de schéma implanté de comment on travaille en classe. Donc ils étaient encore assez souples, assez libres, parce que c'était des enfants qui n'avaient pour la plupart pas été en collectivité. Donc ils étaient encore dans une grande spontanéité, dans une méthodologie vraiment innocente, je dirais. Et il est bien plus facile, disait Céline Alvarez, d'installer des ateliers de vie pratique, des ateliers de type Montessori où les enfants s'approprient leurs propres projets, hein, comme je vous présentais dans l'épisode sur le dispositif des moins de 3 ans, dans l'épisode 16. C'est plus facile de démarrer ce genre d'apprentissage avec des 2 ans qu'avec des enfants de 5 ans qui ont déjà vécu 1 ou 2 ans d'école maternelle. Parce qu'ils sont très en neurones miroirs quand ils arrivent en collectivité, ils s'imprègnent des règles, ils s'imprègnent de la méthodologie de l'enseignante ou de l'encadrant, et finalement, ils s'approprient tellement le « fait comme le modèle » ou « fait comme ceci » ou « prend ce matériel-là » qu'ils n'ont plus besoin de réfléchir à l'ensemble de l'activité, à l'ensemble du travail, et qu'une partie des fonctions exécutives tombe dans ce projet qui n'est pas approprié par l'élève en lui-même. Cette notion de transversale, cette notion de confiance dans sa propre action, cette notion de voir qu'il a un impact visible sur sa tâche, permet sur le long terme à l'enfant de se responsabiliser, permet à l'enfant de se sentir pleinement auteur de son travail, pleinement confiant dans ses capacités à agir, à avoir des résultats, donc à faire ses propres choix et ses propres expériences. C'est l'épisode qu'on avait évoqué dans l'épisode 23. Si l'enfant s'approprie vraiment son activité, il va mettre tout en œuvre, en motivation, en énergie, en confiance. Il va se concentrer vraiment pour aboutir à l'objectif qui s'est lui-même fixé. le fait de travailler les compétences exécutives et les fonctions exécutives a été sur les recherches de Céline Alvarez avec Stanislas, qui vérifiait ça au point de vue scientifique, une vraie avancée dans la maîtrise de certaines zones du cerveau, notamment autour de l'amygdale, qui permet de réguler le système nerveux, le système hormonal, et d'agir sur la capacité de l'enfant à résoudre ses propres problèmes sans se sentir victime du monde extérieur, sans se sentir écrasé par le monde extérieur. Et ça a conduit, d'après d'autres études sur les adultes, à voir que les enfants qui s'étaient appropriés ces savoirs de manière vraiment transversale étaient moins souvent confrontés aux addictions, moins souvent confrontés à la dépression et étaient plus capables de s'insérer, de se mélanger et de se confronter à des difficultés ou à des diversités plus importantes. Donc là, je brasse plusieurs domaines hein, autour des neurosciences, autour de la plasticité du cerveau et autour surtout des compétences transversales. Mais l'intérêt de cet épisode, c'est de voir que si votre enfant a entre 1 et 3 ans, c'est le moment idéal pour travailler ces fonctions exécutives-là. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de matériel spécifique. Les ateliers de vie pratique tels qu'ils ont été créés par Maria Montessori, hein, loin du matériel Montessori dont je vous parlais dans l'épisode sur les jouets et sur les cadeaux de Noël, l'idée, c'est de rendre l'enfant pleinement responsable et acteur de son propre projet. Donc vous pourrez repanacher à l'envi les épisodes qui parlaient de ça. Donc l'épisode 23 sur faire ses propres choix, l'épisode 43 sur comment l'enfant apprend, et de le réinvestir dans cette notion de fonction exécutive à présent, qui est peut-être nouvelle pour vous, ou que vous avez déjà lu au détour de certains articles. Donc toutes ces compétences sont évidemment plus importantes que les compétences scolaires pour Céline Alvarez. Pour moi, dans le dispositif, elles étaient primordiales bien avant de s'occuper du nom des lettres, du son des lettres, du nom des numéros, des couleurs et des formes, parce que, notamment la deuxième, hein, vous me voyez bien venir, cette notion du contrôle inhibiteur, de se rendre conscient de ce qui nous traverse pendant qu'on fait une activité, de ce qui nous fait distraction ou diversion autour de nous, parce que dans une classe c'est vivant, dans une classe c'est bruyant. Si le contrôle inhibiteur est fait très tôt pour un enfant de 1 à 3 ans, ensuite les fonctions exécutives complémentaires comme la mémoire de travail et comme la flexibilité cognitive sont décuplées par sa concentration intérieure. Et si je vous remets l'outil de la cheminée des émotions, ça veut dire que ce contrôle inhibiteur lui permet d'accueillir ses flammes et de les réguler personnellement de plus en plus tôt afin de ne pas se sentir démuni par rapport au monde extérieur et de croire que c'est à cause du copain qu'il est fâché, à cause de la maîtresse qu'il est triste, à cause d'une mauvaise note qui va se faire gronder, de reprendre pleinement l'option de voir que les émotions qui sont à l'intérieur de lui ne sont pas dépendantes des gens à l'extérieur. Donc c'est une notion qui est complexe, c'est pas une notion que les enfants vont comprendre en métacognition. C'est quelque chose que nous, en tant que parents, encadrants ou accompagnants, on va pouvoir suffisamment mettre en place au niveau du matériel, de la classe ou de la maison, pour que l'enfant puisse le vivre en fait, puisse le ressentir. Avec beaucoup de cohérence, avec beaucoup de verbalisation, hein, qui sont des piliers que je vous redonne très souvent dans ce podcast, l'enfant va s'approprier son projet, va s'approprier ses émotions, va s'approprier sa méthodologie de travail avec toute sa mémoire de travail et sa stratégie pour mener à bien ses propres projets, mais quels qu'ils soient. S'il a décidé sur le chemin de ramasser tous les bâtons et de les mettre dans un petit bol, c'est un projet qui va lui demander une mémoire de travail, un contrôle inhibiteur et une flexibilité. des micro-projets comme ça, qui n'ont l'air de rien pour quelqu'un d'adulte, sont très importants, c'est vraiment vital pour l'enfant de mener au bout un tout petit projet qu'il a décidé lui-même. Et c'est en ça que je vous parlais des jouets qui sont un peu trop fermés ou qui ne sont pas assez multifonctions, je crois que c'était dans l'épisode 29, parce que sa capacité et sa flexibilité va être empêchée en fait par le matériel, va être empêchée par le côté fermé du support d'apprentissage, du support pédagogique ou du support didactique. Donc laissons apporter du matériel vraiment très simple, du matériel de la vie pratique, comme laver son assiette, comme couper lui-même ses fruits, comme habiller sa petite sœur, comme arroser les plantes. Tous les ateliers de vie pratique que vous avez vus dans les livres de philosophie Montessori que vous pouvez aller voir sur le blog de Céline Alvarez, ce sont des pépites pour que l'enfant travaille ses fonctions exécutives. Vous voyez souvent Siana en story qui étend le linge, qui plie le linge, qui m'aide à balayer, qui m'aide à couper les feuilles du jardin. Tous ces projets-là travaillent les fonctions exécutives et sont intégrantes, en fait, de la vie réelle. On n'est pas en train de sortir un exercice du chapeau qui n'a aucun rapport pour l'enfant. Et ça, c'est aussi un chapitre dans le livre de Céline Alvarez. Il faut que ça fasse sens pour que l'enfant ait envie de l'apprendre. Si on lui donne un jouet et qu'il sent que c'est juste pour qu'on laisse les parents tranquilles ou ses frères et sœurs tranquilles et qu'il aille jouer dans un coin, il n'aura pas la motivation de s'emparer de ce jouet. Par contre, si on lui dit, attention, ça c'est du matériel de grand, hein, ça c'est le ciseau des grands pour couper par exemple les branches, il va se dire, waouh, j'ai envie de faire un projet qui a l'air intéressant, qui a l'air de plaire à papa, qui a l'air de plaire à maman, moi aussi j'ai envie de balayer, moi aussi j'ai envie de passer l'aspirateur. On en a parlé plusieurs fois dans les rooms, les enfants adorent utiliser du vrai matériel. Et la plupart des écoles Montessori utilisent des vraies cruches qui cassent, des vraies coupelles en céramique, en porcelaine, qui cassent aussi, pour que ce soit du matériel humain, adulte, réel. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de truc incassable, il n'y a pas de gobelet, parce que l'enfant ne ferait pas la même précision, la même attention et la même stratégie si ce matériel, il savait très bien qu'il n'avait aucun risque de quoi que ce soit. Donc on les responsabilise en lui donnant une tâche qui a du sens, un matériel qui est réel, un matériel qui est à taille raisonnable. Il ne s'agit pas de lui donner un ciseau qui fait deux fois la taille de sa main, mais d'adapter pour que le matériel soit à la hauteur de son projet, à la hauteur de sa motivation. Donc une des autres philosophies sur les fonctions exécutives, c'est d'être capable en tant qu'adulte, que vous soyez dans un cadre professionnel, en crèche ou à l'école, de laisser le temps à l'enfant de processer à l'intérieur sur son propre projet. Et c'est une des difficultés qu'on a en classe, à savoir le début de l'activité est daté, il y a un horaire pour la commencer, la plupart du temps il y a un horaire pour la finir à cause de l'heure de la récréation ou de la cantine ou de la sortie ou des heures de sport, et peut-être qu'on interrompt une activité juste au moment où sa flexibilité cognitive était en pleine résolution de problèmes, en pleine hypothèse scientifique, et ça c'est toujours un petit peu dommage. Bon, c'est la loi de la collectivité. Mais si vous avez la possibilité de laisser dérouler le processus interne de votre enfant au moment où il s'est décidé à faire une cabane au fond du jardin ou à ranger tous ses jouets dans sa chambre, laissez-le, si vous pouvez, aller au bout de son projet, justement pour qu'il puisse vivre de l'intérieur et ressentir cette plénitude et cette motivation et cette satisfaction d'avoir réussi tout seul. Au bout de sa tâche, s'il a réussi à la mener à bien, il sera tellement fier de lui qu'il n'aura même pas besoin de nos commentaires d'adultes. On n'a pas besoin de dire à un enfant qui est fier de lui « Waouh, bravo, je suis fier de toi, félicitations ». Il est bien plus important pour lui de se sentir avoir réussi que sa motivation et sa satisfaction soient intérieures, soient endogènes, hein, on dit dans le jargon, pour que ce soit pour son avenir qu'il travaille et pas pour nous faire plaisir. L'enfant qui arrive en classe et qui ne fait que des tâches pour faire plaisir à l'enseignant, on a bien du mal à déconstruire ça. On en voit chaque année, ce sont la plupart du temps des enfants qui font aussi à la maison pour faire plaisir. Et parfois, c'est peut-être le cas chez vous, vous avez encore ces petites phrases qui sortent « mais fais-le pour maman » ou « fais-le pour papa » ou « fais-le pour tati ». Je vous invite à réfléchir à cette formulation qui ne rend pas honneur aux fonctions exécutives de l'enfant. S'il le fait pour quelqu'un d'autre, ça désactive sa mémoire de travail, ça désactive son contrôle inhibiteur, ça désactive sa flexibilité cognitive et ça perd du sens pour lui et de la cohérence. Donc il ne s'agit pas de ne jamais faire plaisir aux autres, il s'agit de remettre le dosage et le curseur au bon endroit pour que l'enfant se donne des projets dont il a lui-même envie et qui n'est pas sur la commande de quelqu'un d'autre ou qui n'est pas que pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Si au passage ça fait aussi plaisir, tant mieux. Des fois je vous montre hein, que Siana fait un dessin pour l'anniversaire de sa grand-mère ou que Siana décore une partie de son panier pour après mettre des fleurs pour la table de Noël. Ça lui fait d'abord plaisir et ensuite on valorise son travail auprès d'un autre adulte. Mais la priorité, c'est de voir la satisfaction de l'enfant sur sa propre maîtrise du monde, sur sa propre action dans le monde. Par rapport au processus, vous comprenez du coup qu'il est plus important de voir comment il ressent les étapes de l'activité, les étapes de la tâche, par rapport au résultat final. Si je prends un exemple qu'on a en classe, la première fois qu'on sort de la colle, et qu'on sort des petits papiers à coller ou du crépon ou des boules de papier de soie, l'enfant au début appréhende le matériel, touche, voit comment ça se fait, il peut faire un petit coup de spatule et puis laisser tomber, il peut prendre un bout de papier et puis pas avoir envie de mettre de la colle dessus mais plutôt toucher le papier. Tous ces éléments-là vont montrer que à l'intérieur de lui, il est en train de processer, il est en train de voir l'alliance scientifique entre la colle, le papier et le support, et ça va faire son chemin. C'est plus important, je vous le disais dans l'épisode 43, c'est plus important pour moi de voir qu'il a compris l'utilité et l'utilisation de ces supports-là, plutôt que d'avoir à la fin de la journée les beaux papiers de soie collés sur le bon endroit du bon support. Il est plus intéressant pour moi de voir la démarche intérieure intellectuelle que le résultat final. Et c'est quelque chose que vous retrouvez dans le tequil. Le tequil est une activité légère. Le L, c'est la légèreté. On ne cherche pas un résultat, on cherche plutôt un processus intérieur, une satisfaction intérieure. Peut-être même que de l'extérieur, on ne verra pas à quel point son projet est en train d'avancer, à quel point son projet est en train de processer et d'avancer dans sa résolution d'hypothèses, de stratégies, d'ajustements, de prise en connaissance des nouvelles conditions, par exemple du terrain, par exemple du vent, par exemple des gens qui sont intervenus dans la salle au moment où il était très concentré. Donc je vous invite à observer vos enfants quand ils sont en pleine action, quand ils se sont donné une mission, par exemple de faire des bulles de savon, et qu'ils se rendent compte que quand ils penchent le tube de bulles de savon, ça coule, et ils vont réajuster leur geste. Quand ils vont voir qu'il n'y a plus de bulles de savon ou qu'il n'y a plus de liquide, ils vont chercher un adulte pour le re-remplir. Donc tout ça, au lieu de devancer la demande, au lieu d'anticiper la demande est de la résoudre à la place de l'enfant, je vous invite à rester où vous êtes et juste à l'observer. Et si vous les observez bien, hein, comme je disais dans un des épisodes, vous allez voir les neurones en train de se connecter les uns aux autres. Vous allez voir vos enfants ou vos élèves réfléchir. Moi, c'est vraiment le moment que je préfère en classe, quand l'enfant se dit « mais j'ai trouvé une solution, je sais comment je vais faire et je vais essayer de le faire tout seul ». La plupart du temps, quand on redonne le pouvoir à un enfant de faire tout seul, il se lance, il ose, il essaie, il ajuste et il se sent tellement fier de lui que ça vaut bien le désordre éventuel causé par l'activité. Donc après, à vous de poser les limites, hein. Je ne vous demande pas de sortir tout le matériel pour qu'il puisse tout essayer. Mais si ça reste dans le cadre de ses ajustements, de ses projets, si c'est lui qui le demande, si vous remettez en place peut-être une règle ou une limite que même s'il a sorti toute la semoule pour faire des transvasements, à la fin, il aura la balayette pour ramasser, pour nettoyer. Donc mettez une petite consigne si ça vous est plus confortable et si ça vous apaise vous dans votre peur que la maison soit en désordre ou dans la peur que ce soit vraiment incontrôlable comme activité, mais laissez-le au maximum aller au bout de son projet, au bout de sa tâche, tester son droit à l'erreur, qu'il puisse se rendre compte à quel point il est en train de progresser dans sa maîtrise des phénomènes extérieurs à lui, des phénomènes dans le monde vivant. Vous pouvez reformuler éventuellement une difficulté qui viendrait au cours du processus. Vous pouvez aussi lui demander s'il a besoin d'aide, mais évitez de faire à sa place, de réfléchir à sa place et d'ajuster à sa place. Si vous voulez renforcer votre enfant dans son estime de lui, dans ses capacités, laissez-le essayer, tester, rater, apprendre. Rater, apprendre, et à la fin, il aura appris et il se rappellera, surtout dans sa mémoire de travail, quelles sont les choses à éviter la prochaine fois. On parle d'expérience, on parle de mémorisation. Tous les sujets que je vous ai décrits dans l'épisode 43 autour de l'apprentissage sont complémentaires avec cet épisode des fonctions exécutives. Donc, je vais enfoncer le clou par rapport au confinement, parce que quand j'envoyais les activités aux mamans et aux papas par mail, donc par jour de classe qui était confiné, j'envoyais 10 activités possibles à faire à la maison. Donc parfois c'était une chanson qu'on avait travaillée en classe, parfois c'était un atelier de vie pratique, parfois c'était une proposition de jeu autour d'un thème. Et la plupart du temps, il y a des mamans qui me disaient « mais on n'aurait jamais pensé à faire un atelier autour des fourchettes de la cuisine, de regarder toutes les fourchettes de la cuisine, est-ce qu'elles ont le même nombre de dents, est-ce qu'elles sont de la même taille, est-ce qu'on peut les utiliser pour autre chose, pour créer un bonhomme et tout ça. » Et en fait, vous avez un matériel incroyable chez vous que vous n'imaginez pas comme support pédagogique et didactique. Et vous allez peut-être au fil du temps maintenant, que vous êtes plus sensible à cette notion, voir à quel point n'importe quel matériel de votre maison peut être un support didactique. C'est d'ailleurs un des défauts qu'on retrouve chez les enseignantes de maternelle qui gardent absolument tous les supports qu'elles trouvent au fil du temps, en vacances, à la plage, pour en faire des supports didactiques, d'ateliers de vie pratique, d'ateliers Montessori et tout. Alors il n'y a pas que les rouleaux de papier toilette, hein. La légende dit on garde tous les rouleaux de papier toilette et c'est vrai. Depuis que j'étais à l'éducation nationale, je gardais toujours des tonnes et des tonnes de matériel. Mais pendant le confinement, ça a sauvé quand même une grande partie des mamans d'avoir du carton d'avance, des feuilles d'avance, de la pâte à modeler, des pinces à linge, du matériel de base. Il n'y a pas besoin d'acheter beaucoup de matériel. C'est réinvestir, détourner les objets et en faire quelque chose de constructif pour l'enfant qui fait sens. Donc certaines mamans étaient étonnées parce qu'elles voulaient plus acheter des fichiers tout prêts, des fichiers qui sont vendus sur Instagram, en PDF, pour faire travailler l'enfant à table, pour faire travailler l'enfant à relier les points, à écrire des lettres, à colorier, à faire des codages, à faire des choses sur papier, sur feuille. Je ne suis pas aussi intransigeante sur pas de papier, pas de coloriage, mais je pense que le matériel physique en 3D, humain à déplacer, à aménager, à pousser, à changer de pièce est plus intéressant pour l'enfant que de le laisser à table en train de faire des fiches d'exercice. Et ça a été quand même une révolution en maternelle parce que les 10 premières années, on était encore beaucoup, beaucoup dans le travail écrit et dans le travail noté, visible. Et puis au fil du temps, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'enseignants qui se sont appropriés ces principes que on n'a pas besoin d'avoir une fiche qui récapitule les compétences si on voit que le processus intérieur a été fait. Et le fait de le proposer dans d'autres ateliers, d'autres jours, dans d'autres lieux, on verra à la fin si ça a bien été transféré, mais une activité n'est pas égale à une fiche de travail. Donc les fonctions exécutives, elles vont se travailler tout au long des matières, tout au long des activités et surtout tout au fil de l'année, pas que la maternelle, hein, parce qu'ils continuent à travailler les fonctions exécutives tout au long de l'école élémentaire. Mais vous voyez que ces fonctions exécutives, si elles n'ont pas été acquises avant le collège, ça devient bien difficile d'avoir une mémoire de travail à 11 ans si ça n'a pas été travaillé avant. C'est difficile à 11 ans de contrôler sa concentration, sa distraction, sa manière de prioriser les tâches si ça n'a pas été travaillé avant. Donc ça me paraît prioritaire. Par rapport à la lecture, par rapport aux mathématiques, ça n'empêche pas de travailler autour des sons, des lettres, de la numération, de compter, de verbaliser, mais ça doit venir en complément radical de tous les apprentissages que vous faites en classe, en instruction en famille, en atelier si vous êtes animateur, en atelier si vous êtes en crèche. Les enfants doivent s'approprier vraiment leurs tâches, leurs projets et leur matériel. J'ai réussi à tout vous dire ce que j'avais noté comme petit point sur ma feuille. Donc je vais m'arrêter là pour cet épisode qui est vraiment plus pédagogique et didactique pour une fois que autour de la vie quotidienne de l'enfant. Mais ça se rejoint très vite sur les supports que vous avez déjà à la maison pour installer cette philosophie en fait de vie pratique qui est toute la philosophie de Maria Montessori, et les travaux de Céline Alvarez a réactualisé en fait toute la recherche à la lueur des neurosciences. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, allez vraiment sur les forums de discussion et d'explication de CélineAlvarez.org. Vous allez trouver des vidéos, vous allez trouver des fichiers, vous allez trouver des notions aussi d'espace dans la classe ou dans la maison. Donc un espace autour de la vie du graphisme, autour des sciences, autour de la manipulation, autour des formes, des couleurs, de la musique, du sensoriel. Donc il y a plusieurs espaces de vie qui travaillent indifféremment toutes les fonctions exécutives sans délimitation de matière en réalité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème. Et puis au niveau des petits codes promo, on est le 2 mars. Le demain, c'est l'ouverture des ventes pour le parcours Emotizen qui aura lieu en ligne, 100% en ligne à partir du 10. Si c'est un projet qui vous intéresse de venir travailler avec moi, d'avoir des modules en live disponibles sur une plateforme 24h sur 24, on aura des ateliers aussi en live sur des thèmes comme l'autorité, les émotions, la communication. On va aussi avoir des sessions de questions-réponses pour que vous puissiez me poser toutes les questions qui sont liées à votre actualité, votre vécu, en fonction de vos situations de vie. Et on aura aussi une communauté sur WhatsApp où on pourra échanger toutes nos astuces, toutes nos questions pour qu'on puisse se soutenir toutes ensemble. Donc c'est un programme qui est réservé aux mamans. C'est un programme dont les 10 premières inscrites vont avoir des heures de coaching individuelles avec moi. Donc si vous faites partie des 10 premières à l'ouverture des ventes, vous pourrez bénéficier de 2 heures individuelles de coaching avec moi et en plus une heure de coaching en couple avec le coparent, que vous soyez encore ensemble ou non. Je prends le couple parental pour parler de communication, d'autorité, d'émotion et justement pour faire cette cohérence familiale entre nous. Vous aurez plein d'autres bonus et plein d'autres capsules qui seront sur la plateforme. Si toutes ces notions vous intéressent, si c'est le bon moment pour vous, ça va durer 4 mois. On commence le 10 mars, on aura fini le 10 juillet. Je vous annonce très clairement que ça va changer toute votre vision de la parentalité, que ça va changer non seulement votre manière de ne plus avoir peur de vous mettre en colère, de ne plus être hors de vous et démuni face aux colères de vos enfants. Donc c'est une transformation complète que je vous propose. J'aurais tellement voulu avoir cette formation en 2019 pour moi-même que j'ai fini par la construire et je suis tellement ravie de vous la proposer maintenant. Donc si c'est le bon moment pour vous, si vous êtes prêt pour cette session-là, engagez-vous dans l'aventure. Il y aura sans doute une version 2 en septembre qui sera à un prix plus cher. Là, c'est la bêta test, donc profitez-en. Toutes les infos seront en ligne demain sur Instagram. Si vous écoutez cet épisode un peu plus tard, n'hésitez pas à me renvoyer quand même votre intérêt pour ce programme et je vous dirai s'il est encore possible de le rejoindre suivant la date où vous écoutez cet épisode. Merci encore pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite en DM, sur Instagram, sur Clubhouse ou sur Facebook. Prenez très bien soin de vous et de vos fonctions exécutives. À bientôt. Au revoir.